Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch et qui résume et analyse l'actualité du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Giscal de retour après une petite absence et je suis accompagné aujourd'hui, pas de mon acolyte habituel, mais tout aussi bien, voire mieux, qui sait, on va voir Camille Bourg, Bad Karma, comment ça va?
Salut Giscal, salut tout le monde. Bah écoute, on verra, on va essayer de faire aussi bien qu'avec IRM. Hein.
Oh non, bah, j'ai écouté les épisodes en mon absence, je vois que tout était entre de très bonnes mains. Enfin, en même temps, je dis absence, mais c'est vrai qu'avec les marathons qu'on se tapait il y a un certain temps, j'ai l'impression qu'en loupant trois épisodes, je suis parti en vacances pendant 2 mois.
Ah bah, globalement, t'as raté 3 épisodes la semaine dernière, et dans ces 3 épisodes, il s'est passé quoi? Il y a eu une review de pay-per-view, il y a eu une review de SmackDown, une review de Raw. C'est assez
ça.
Intense, ouais. On a
c'est
fini
ça,
un peu
c'est
sur
ça.
La rotule avec IRM. C'était il y a 2 semaines, ça, pardon.
Eh oui. Ah, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour vous, chers abonnés? Bon, écoutez, en tout cas, cette semaine, on est là pour le SmackDown du 5 mars 2019, qui est nul autre que le Go Home Show de Fastlane. Nous sommes déjà aux portes de Fastlane, l'ultime étape avant WrestleMania. Et SmackDown, qui se tenait dans une arène au nom imprononçable en Pennsylvanie, je vous épargnerai mon accent, avait plein de choses à nous proposer en stock pour ce Go Home Show. Donc on va tout de suite passer aux affaires courantes et on va commencer cette émission avec le champion de la planète, Daniel Bryan. Daniel Bryan qui est au centre du ring pour... ça avait été annoncé déjà la semaine dernière et un peu sur Twitter. Il était là pour parler un petit peu de la situation, de la scène du titre WWE, Kofi Kingston, le remplacement incroyable la semaine dernière de Kevin Owens, tout ça. Donc il est au centre du ring et grosso modo... il est resté. Alors c'était assez drôle hein, pendant la signature du contrat la semaine dernière. C'était la semaine dernière, hein, c'est ça.
Oui.
Il est resté de marbre pendant tout le segment. Ça avait été assez remarqué. Un silence qui en disait long un petit peu sur toute la situation. Mais s'il avait été silencieux la semaine dernière, il ne le sera pas cette semaine. Cette fois, c'est à son tour de parler. Et donc d'ailleurs, Rowan qui en profite pour dire à tout le monde de la fermer histoire d'attirer un petit peu de hit. Voilà, il dit que Kofi, de toute façon, Kofi est un B-player, un peu un supporting player, un joueur de seconde zone. Et il est d'ailleurs là où il devrait être, hein, en Inde avec le reste du New Day. Le New Day qui était en tour promotionnel cette semaine, donc absent de SmackDown en Inde. Et donc Vince, en fait, a tout simplement échangé un homme qui aime jeter un large nombre de pancakes dans la foule contre un homme qui aime tout simplement manger un large nombre de pancakes. Donc une petite fat joke pour commencer de bas étage hein, du champion qui attire le challenger Kevin Owens qui sort de sous le titantron et puis d'ailleurs qui en profite hein, qui dit ouais bah c'est ça on en est là à faire des blagues sur les gros c'est tout ce que tu trouves machin donc bon ça se chamaille un petit peu Kevin Owens qui est un petit peu en mode full face là. On ne sait pas forcément trop quoi en penser. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir jouer cette partition, presque un peu fade à mon goût. Tu me diras ce que t'en as pensé, mais c'est vrai que il explique que il était pendant son absence devant son canapé à regarder le titre, se voir manquer de respect, un champion qui est condescendant et que du coup il va se faire le porte-parole de tout le public et s'assurer que c'est lui qui va lui prendre la ceinture et lui faire fermer sa bouche. Donc une promo. Face ultra classique face à un champion de la planète qui lui a son personnage c'est vrai bien campé là depuis quelques semaines. On avait un petit peu le sentiment sur ce segment d'ouverture que on avait un champion qui avait son personnage bien ancré déjà bien maîtrisé et un Kevin Owens qui se cherche encore en face qui a pas forcément encore vraiment une vraie personnalité. J'ai trouvé que c'était assez déséquilibré. Je sais pas ce que toi tu as pensé de cette intro.
Ça commence sur des blagues de gros, forcément, c'est pas très très élevé. Mais Owens, il a raison de dire on en est réduit à ça, t'as pas mieux comme argument et tout, non? Bon, fin de blagues de gros si t'as envie, hein, on s'en fout, on va faire avec. C'est vrai que Bryan, son personnage, il le tient, c'est pas un scoop, hein, depuis... bah, quasiment depuis le début, depuis son heel turn juste avant Survivor Series. Et à côté de ça, effectivement, le Kevin Owens qui garde une réputation de, bah, de gros bâtard quand même.
Oui. On a du mal à y croire. Hein. Ouais.
Il est face, mais on sait pas trop parce que dernière fois qu'on l'a vu, c'était vraiment un sale connard. Voilà, donc ouais. on sait pas trop où se positionner vis-à-vis d'Owens. Qui en plus ne méritait pas les blagues sur les gros vu que
il a perdu pas mal de poids pendant son absence.
Il s'est remis en forme, ça se voit physiquement. Puis voilà, donc bah écoute.
L'impression qu'il était un peu face par défaut, Kevin Owens, dans ce segment, tu vois.
C'est un peu ça le souci, c'est que on sait que la fédération aime pas forcément booker des face contre face ou heel contre heel. Et que du coup, s'il y en a un qui est heal, bah faut que l'autre soit face pour faire contrepoids, mais c'est pas toujours les choix qu'on voudrait voir. Que Kevin Owens en face, il est un peu chiant pour l'instant, je trouve personnellement. Il est bon au micro, hein, mais c'est plat, y a pas de relief, y a pas son agressivité qu'on aimait bien quand il était heal et que c'était un gros connard.
Ouais, je trouve que ça manquait un peu d'agressivité. Et bon, alors de l'agressivité, il y en aura eu, de l'agressivité physique. Hein. C'est vrai qu'à la fin du segment, bon bah voilà, Kevin Owens qui finira par rentrer dans le ring pour confronter Bryan, Rowan qui s'interposera, et puis bah ça partira en baston avec les heels qui gardent un petit peu la main, et ça va nous booker un petit peu plus tard dans l'émission Kevin Owens contre Eric Rowan. Enfin, Rowan tout court d'ailleurs, on ne dit plus Eric Rowan, hein. il a été squeezé de son prénom comme nombreux de ses collègues. Et puis bah, du coup, bah, écoute, je te propose, on va enchaîner tout de suite sur ce match qui a eu lieu un peu plus tard dans l'émission, juste avant le segment du main event, donc voilà, au
bout
d'une heure et demie.
Ça me va.
Kevin Owens contre Rowan, match franchement très court qui a plus servi d'angle finalement, puisque au bout d'une minute 40, grosso modo, Rowan, qui pourtant avait d'une certaine manière quand même le dessus physiquement hein, sur un Kevin Owens sur le retour, bah finalement, ça part en disqualification quand, alors Daniel Bryan qui était au commentaire pour ce match, excellent Daniel Bryan au commentaire pour pourrir Kevin Owens sur ses moindres faits et gestes dans le ring, et notamment se moquer de son opération des deux genoux qui l'avait tenu éloigné, hein, toujours, parce qu'en fait il considère que Kevin Owens c'est un athlète formidable, mais qu'il a une work ethic, alors je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais une sorte de discipline, on va dire, de travail et d'entretien qui est lazy, qui est feignante, et donc en fait il pourrait être tellement mieux que ce qu'il est, mais c'est voilà, il est à son image, et ses problèmes de genoux c'était à l'image de ce qu'il est, et donc voilà, il le trashait pendant tout le match. Ça a fini par énerver Kevin Owens qui s'est jeté sur Daniel Bryan, évidemment, Rowan, et enfin ça finit en 2-1, disqualification, beatdown à l'extérieur du ring. Et là, alors qu'on entendait, j'ai trouvé ça assez drôle, le public, on entendait des Sami, Sami dans le public, hein, oui, on se disait, oui. Tiens, va-t-on avoir un deuxième retour? Et ben oui, on a eu d'une certaine manière un deuxième retour quand même, puisque c'était pas Sami, mais c'est Ali, Mustafa Ali, la musique de Mustafa Ali qui retentit, et Mustafa Ali qui endosse le costume du Chevalier Blanc, qui vient sauver Kevin Owens à 2-1. Une arrivée lourde de sens quand même pour Mustafa Ali, qui est directement réintégré un petit peu dans cette title picture à multiples acteurs, mais un retour qui pour moi un petit peu pas fait plouf, mais peut-être que la WWE avait peut-être un peu surestimé, on va dire, la popularité de Mustafa Ali, parce que la pop n'a peut-être pas été à la hauteur de ce que l'angle voulait, parce qu'il est quand même arrivé pas dans l'indifférence, hein, mais tu sentais que c'était pas non plus la folie dans les gradins. Mais en tout cas, une arrivée drôlement intéressante pour Mustafa Ali, et qui pose pas mal de questions pour peut-être l'après Fastlane. Je sais pas ce que tu as pensé de ça.
Ah bah effectivement, le public voulait voir Sami Zayn. Le public n'a pas eu Sami Zayn, il a eu Mustafa Ali, donc il est un peu déçu. Le public, et il est content de voir Mustafa Ali. Ça s'entend. Il y a quand même une pop pour le bonhomme, mais bah voilà, c'était pas celui que le public voulait voir. C'est un peu le problème en ce moment dans beaucoup de segments de la WWE. C'est que y a le public qui attend quelque chose ou quelqu'un et qui n'obtient pas ce qu'il veut. Et donc qui réagit pas comme il faudrait réagir d'après les plans. Si on va... Pour schématiser rapidement, on va dire.
Ça.
Après, le match, comme tu l'as dit, il était assez court, mais il était plutôt bien rythmé. Il était pas, il était à regarder. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de temps mort. Alors, moi, j'ai pas eu les commentaires de Daniel Bryan au micro.
Ah. Ils n'étaient pas mauvais pour une fois, je trouve.
Disons que quand il commençait à parler, j'avais tendance à baisser le volume un peu pour pas l'entendre.
C'est-à-dire que pour une fois, j'ai trouvé que c'était pas mal, parce que généralement, quand ils invitent un heel à la table des commentateurs, sauf si c'est le Miz qui est très très fort aussi dans l'exercice, souvent il a tendance à accaparer la parole et pas parler de ce qui se passe dans le ring et tracher. Là, je trouve que Daniel Bryan, en fait, il commentait vraiment le match et il rebondissait sur chaque prise un petit peu de Kevin Owens pour dire « Ah bah ça c'est dangereux, ça c'est... » Donc c'était pas mal ce qu'il faisait. Mais bon, c'est anecdotique, hein.
Mike, il est très fort pour mettre over tout le monde quand il commente un match. C'est sa spécialité, mais il n'y a que lui qui sait le faire.
Oui.
J'avais pas trop écouté les commentaires de Bryan. Juste à la fin, je comprenais pas trop ce qu'il disait à Owens pour qu'Owens s'énerve.
Donc là, je l'ai réécouté
un peu mieux et. T'es feignant et t'es gros. Enfin, voilà, on en revient toujours à la blague de départ.
C'est tourné un peu différemment. C'est-à-dire qu'il lui dit qu'il a une discipline, une hygiène de vie feignante et pas comme la sienne. Donc oui, ça sous-entend qu'il se laisse aller. Et du coup, il a un physique un peu bedonnant, mais c'était pas exactement non plus. Je trouve que c'était un peu mieux que de dire t'es gros. Machin.
Oui. Mais voilà, l'idée reste là quand même. On a commencé avec ça, on va rester avec ça pour l'instant.
Oui, c'est-à-dire que oui, je pense que ça va pas forcément voler très très haut. Et donc, du coup, Mustafa Ali qui revient dans cette affaire au premier plan, c'est peut-être pas forcément là où on l'aurait vu revenir de sa blessure, puisqu'il avait d'autres histoires en cours à la base.
Ouais, c'est ça. Les commentateurs, je crois que c'était... alors, c'était pas Corey Graves, c'était pas Aaron Sexton, c'est le troisième, je me souviens jamais de son nom. C'est pas grave.
Tom Phillips
qui disait que c'était Rowan qui était la cause de la blessure d'Ali. Donc il revient pour se venger, Mustapha.
Ah bon, c'était lui. Ok. Alors,
c'est ce que le commentateur dit, je me souviens pas exactement.
J'avais l'impression que c'était que quand il avait disparu des écrans, il était plutôt en rivalité avec Samoa Joe.
Ah oui, mais c'était au moment où il faisait un match à 6. T'avais les 3 face contre les 3 heels de l'Elimination Chamber et Rowan était intervenu à ce moment-là. Je m'en souviens, mais est-ce que dire que c'est la faute de Rowan si Ali était blessé, c'est peut-être un peu rapide et un peu trop simple pour expliquer pourquoi Ali revient à cette hauteur stratosphérique
C'est ça, parce que c'est vrai que avec Kofi Kingston, donc, qui était bel et bien absent, on a eu une petite vignette pendant l'émission de Kofi en Inde avec ses copains. Kofi Kingston est absent, on sait que voilà, il a été floué de son match à Fastlane, il y a fort à parier quand même que ça n'en reste pas là après Fastlane. Kevin Owens est maintenant dans l'équation. C'est vrai que tu te dis est-ce que Mustafa Ali a vraiment sa place? Qu'est-ce que ça veut dire pour WrestleMania? Est-ce que c'est anecdotique? C'est étrange ce retour ou alors est-ce qu'il va juste feuder contre Eric Rowan en parallèle? Je ne sais pas, ça me paraît très étrange aussi.
Voilà, pour l'instant, on est un peu trop dans le flou. Oui. Et c'est le problème aussi de devoir booker à la fois Fastlane et Mania en même temps. Il y a trop de trucs en parallèle qu'il faut. Et du coup, on est un peu perdu parfois sur. Alors attends, ça va concerner Fastlane ou Mania? Je sais plus moi où j'en suis. Voilà.
C'est ça, on ne sait plus.
C'est un peu prise de tête parfois.
Ouais. Écoute, après Fastlane, on en saura sans doute plus. Toujours est-il que ça reste bien Kevin Owens contre Daniel Bryan ce dimanche à Fastlane.
Oui.
Et une autre affiche de Fastlane qui a connu quelques légers rebondissements, mais tout de même quelques avancées, c'est la défense de titre des ceintures par équipe reprise par les Usos à l'Elimination Chamber contre le Miz et Shane au Mac. les Usos étaient dans le ring cette semaine pour faire une petite promo dans leur style habituel. Hein. Ils se passent la parole les uns après les autres, mi-rap, mi-ghetto, là. Enfin, c'est toujours dans ce style très sympa, un peu en rime, là. Donc ça, ils maîtrisent parfaitement. Bon, bah voilà, ils se foutent un petit peu de la gueule de l'amitié entre Shane et le Miz. Ils se moquent un petit peu, bah voilà, de cette association de pacotis qui finalement n'a pas fait long feu, qu'ils ont vite maîtrisé. Et puis bah voilà, hein, bienvenue dans le pénitencier des Usos. Shane et Miz arrivent avec un micro eux aussi. Eux, ils ont pas grand chose à dire, grosso modo, ils viennent juste un petit peu parader, hein, ils disent bah oui, mais non, nous on est la meilleure tag team du monde et on va vous le montrer dimanche. Et puis ça se fout des patates dans la gueule avec les faces qui prennent le dessus. Tout ceci était un petit préambule à un match entre le Miz et Jey Uso, histoire de se chauffer avant dimanche, avec bien évidemment Shane et Jimmy Uso qui sont restés aux abords du ring. Un match correct, relativement rythmé. Les deux ont joué leur classique. Et à la fin, finalement, parce que le finish fait un petit peu écho, c'est vrai, à ce qui s'est dit. Je suis passé un petit peu vite peut-être sur ce qu'a dit le Miz et Shane. C'est que le Miz les a bien prévenus en promo avant le match. Ils disent vous verrez dimanche, la moindre faute d'inattention, on en profitera et on vous reprendra les ceintures, on va vous coucher. Et ben c'est ce qui s'est passé à SmackDown, puisque finalement, petite distraction, en tout cas petit bordel aux abords du ring entre Jimmy et Shane. Jey Uso, qui était dans le match, lui, est un peu distrait par ce qui se passe aux abords du ring, et le Miz en profite pour placer son skull crushing finally par derrière, et ça fait une victoire du Miz qui du coup a capitalisé sur cette petite faute d'inattention, et les challengers prennent un petit peu de momentum avant ce match de dimanche, cette revanche. Voilà
t'en as pensé? Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter, t'as tout dit. On va juste rappeler un truc, c'est que dans leur promo, Miz et Shane nous disent bien, ils insistent un petit peu dessus, que ce sera à Cleveland, avec le père du Miz en ringside et tout.
Ouais. Tout le tintouin, là. Ouais.
C'est un peu louche le fait qu'ils insistent dessus.
Ah, ils insistent à fond, hein. Ouais. Déjà au moment de booker le match, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, ils avaient dit... Allez, viens, on book à Fastlane. En plus, ça va être à Cleveland, dans ma ville natale et tout.
C'est ça.
Tu sens que c'est prépondérant dans le build, hein, quand même, et que il va se passer quelque chose. Hein. Ouais.
Ouais. Et du coup, ceux qui sont habitués à pronostiquer en fonction de certaines règles, à savoir le booking inversé ou le mec ne gagne jamais à domicile. Il y a deux éléments qui diraient que le Miz ne gagnera pas. Il sera à domicile et en plus il a gagné ce soir. Donc, faut-il voir une future victoire des Usos?
Oui.
Seul l'avenir le dira. Ouais. Et puis, pronostiquer, à votre avis, qui va gagner et essayer de faire un meilleur score que Giscal pour le rattraper, parce qu'il est en train de s'échapper au classement catch-up des pronostics.
Non, là, j'ai pas... Très très bien joué l'Elimination Chamber, mais bon, je garde espoir pour défendre ma couronne en effet. Mais si je peux donner un petit tips de pronostic sans dévoiler tous mes votes, je pense que les Usos vont gagner assez facilement ce match. L'histoire va dans ce sens, hein. Tu l'as dit, c'est un petit peu louche. On appuie bien là-dessus. Et au-delà de ça, la grande montée, le grand climax vers le payoff de la victoire de Shane et le Miz est passé, hein, c'était au Royal Rumble, voilà, c'était ça. Maintenant on est passé sur autre chose et l'histoire nous amène probablement plus maintenant vers une rupture ou d'autres développements que vers une nouvelle victoire un peu feel good. Le feel good on l'a déjà eu, donc en effet je pense que ce match est relativement facile à pronostiquer. Maintenant il va falloir savoir qu'est-ce qu'ils ont dans leur besace à Cleveland pour nous surprendre et pour nous faire accrocher à ce nouveau chapitre de cette équipe un peu improbable, Shane et Miz, moi qui me plaît toujours autant.
Comment nous surprendre à Cleveland pour le Fastlane, en nous annonçant un match tag team pour les championnats de Raw, un triple threat là annoncé en plein SmackDown. J'ai fait oui. What?
SmackDown.
Quoi?
En effet.
Mais... Bon, ok, pourquoi pas, mais donc, pour ceux qui ne savent pas encore, il y aura le Revival qui défendra contre Chad Gable et Bobby Roode et Aleister Black et Ricochet.
Eh oui, absolument, pour faire suite à ce qui s'est passé à Raw la veille avec Gable et Roode qui étaient venus interrompre un title match entre les deux autres équipes. Et d'ailleurs, c'est une magnifique transition puisque nous n'en avions pas fini avec les tag teams cette semaine à SmackDown, puisqu'un peu plus tard dans l'émission, nous avions... Bah écoute, encore Aleister Black et Ricochet qui font bah tous les shows, c'est bien simple hein, maintenant, hein, depuis ça fait un mois là qu'ils n'arrêtent pas, ils sont partout, et ils défient tout ce que la WWE a proposé d'équipe, et donc cette semaine c'était The Bar, Aleister Black et Ricochet affrontaient The Bar, après avoir battu la semaine passée Rusev et Nakamura à SmackDown, ils espéraient accrocher le scalp d'une autre équipe bien établie de SmackDown. Et ben écoute, c'est ce qui s'est passé sans trop de surprises, hein, sans rentrer dans le détail d'un match qui moi personnellement ne m'a pas forcément emballé. J'en attendais un petit peu plus, mais bon, écoute, ça restait quand même relativement propre. Hein, on va pas faire la fine bouche. Aleister Black et Ricochet qui donc l'emportent sur un Black Mass un petit peu out of nowhere de Aleister Black qui était en train d'être dominé. Dans un double team par The Bar Sheamus, je crois que c'est Sheamus qui non c'est ou c'est Cesaro qui se bouffe le Black Mass, je ne sais plus. Mais en tout cas,
c'est Sheamus, il me semble.
Je crois aussi que c'est Sheamus, oui, c'est ça. Et donc Sheamus bah complètement KO au centre du ring, Aleister Black qui réussit à faire le tag et là c'est le 630 de Ricochet hein, ce sorte de triple flip là enfin deux tours et demi là, de Ricochet pour la victoire. Donc encore une victoire de Aleister Black et Ricochet qui sont un peu les globetrotters en ce moment là, de show en show, ils affrontent tout le monde, il n'y a pas trop d'histoire, ils ont des opportunités parce qu'ils gagnent des matchs hein, donc bah, c'est vrai qu'au final on a du mal à se dire que c'est pas mérité, mais en même temps c'est vrai que c'est un peu bizarre ce qui se passe autour de cette équipe, pas trop ce qu'ils veulent en faire. À part si ce n'est qu'ils veulent l'exposer manifestement parce qu'ils ont une exposition à fond et puis comme tu l'as dit bah voilà, ils vont avoir une opportunité pour les titres tag team de Raw ce dimanche.
Déjà première surprise concernant Black et Ricochet, c'est qu'apparemment c'est une équipe qui a l'air bâtie pour durer un peu.
Oui, manifestement.
Alors que c'était plutôt deux individualités qui ont été mises ensemble pour l'occasion. Bon, pourquoi pas, on va voir. Moi, j'ai plutôt bien aimé le match, parce que en même temps, j'aime beaucoup les quatre qui étaient dans le ring, donc c'était assez facile pour moi de m'investir dans ce match. La victoire des petits nouveaux, c'est un peu comme...
Qui gagnent assez facilement quand même hein, sur The Bar. Hein, ouais.
Voilà, ils sont en exhibition et ils gagnent leur match d'exhibition. Mmh. C'est bon, ils gagneront probablement pas, voire c'est même certains qui gagneront pas face aux autres.
Écoute, c'est à se demander à force, hein. Ils gagnent tout.
Mais voilà, c'est ça. Voilà, le but est de nous mettre le doute. Est-ce qu'ils vont gagner, est-ce qu'ils vont pas gagner Pour l'instant, rien n'est sûr, rien n'est moins sûr. Maintenant, est-ce que moi j'ai envie de les voir champions à Raw J'aimerais bien que le Revival garde quand même un petit peu. On a eu une année catastrophique avec la ceinture tag team en 2018. À Raw, il y a eu 9 changements. Il y a eu 10 équipes championnes au total. C'est n'importe quoi. On savait plus trop quoi. Enfin, c'était la patate chaude cette ceinture. Ces ceintures. J'aimerais bien que ça se calme un peu là en 2019.
Ouais, et puis bah écoute, en tout cas. Qu'il s'est passé aussi un truc après le match, hein, parce qu'on sait que du coup, les Nakamura et Rusev sont arrivés après la victoire de Aleister Black et Ricochet pour se venger un petit peu de leur défaite de la semaine dernière et ont commencé à attaquer Aleister Black et Ricochet. The Bar, forcément, en a profité pour revenir et puis foutre quelques mandales aussi dedans, 4 contre 2. Et là, c'est la musique des Hardy Boys qui retentit, qui viennent sauver Ricochet et Aleister Black. Puis alors là, ça part des flips, des suicide dives dans tous les sens et les babyface font place nette et paradent dans le ring. Donc la scène tag team de SmackDown en ébullition derrière les Usos et Shane et Miz. C'est vrai que tu te dis qu'après Fastlane, il va peut-être y avoir un petit peu de mouvement parce que ça bouge à SmackDown. Il y a quatre équipes qui se posent là, quatre belles équipes. Ouais. Plutôt quand même. Alors Aleister Black, Ricochet, c'est vrai qu'ils font la navette, mais le fait qu'ils soient pris un petit peu dans cet angle à SmackDown, qui semble être pour le coup un vrai début un petit peu de d'animosité, parce que Arrow, tu me diras si il commence à se chercher des noises un peu avec Gable et Roode aussi, mais bon, ils sont impliqués partout, Aleister Black et Ricochet, c'est compliqué. mais en tout cas voilà, cette petite émulation moi m'a fait dire que on se dirigeait peut-être vers quelque chose un truc un peu fiesta, all-star à WrestleMania qui marche toujours assez bien. Moi, j'imaginais.
Fatal four-way.
Ah ouais, non, mais moi, j'imaginais bien, tu vois, après le match, me dire un ladder match pour les ceintures avec les Usos contre Aleister Black et Ricochet, contre The Bar, contre Nakamura Rusev, contre les Hardy Boys. Un truc pour les ceintures de SmackDown, je me dirais que ça enverrait du sacré pâté quand même, ça.
Ouais.
C'est un peu l'impression que ça m'a donné après tout ça, mais bon, écoute. Tu sens qu'il se passe des trucs et que Aleister Black et Ricochet sont. Au cœur de tout ça, puisque de toute façon ils sont partout.
Tu sens qu'il y a un vrai plan autour des deux de NXT, qu'il y a quelque chose de vraiment construit, contrairement à d'autres montées d'NXT
pour lesquelles on
peut se poser des questions de qu'est-ce que ça donne en fait ? Ça donne rien. Voilà, vous avez rien pour eux, donc faudrait peut-être réfléchir un peu.
Là, c'est une des montées les plus impressionnantes depuis un petit moment quand même, parce que
voilà. Et donc on a les Hardy Boys qui arrivent pour sauver les faces. Écoute, moi je veux voir un match entre toutes ces équipes et les Usos, comme tu dis, un petit truc all-star qui permet de caser tout le monde, toute la mid-card tag team en un seul match, moi ça me va très bien. Donc c'est que des bons workers, donc ça devrait
envoyer du pâté. Je pense que ce serait une bonne solution, mais bon écoute, on va voir qu'est-ce qu'ils ont dans leur sac pour WrestleMania, pour les équipes. Allez, on continue et on va continuer avec la scène US, un SmackDown très riche, hein, parce que quasiment toutes les scènes ont été représentées. La scène US avec R-Truth et Carmella, comme toujours, qui viennent faire leur petit spectacle, petite promo un peu loufoque de R-Truth au centre du ring, 7 seconds, le dance break de 7 secondes, R-Truth qui continue à faire des blagues un petit peu comme son héros John Cena, et puis qui dit qu'en fait, il se rendait pas compte que putain, l'Open Challenge pour la ceinture US, c'est sympa, mais en fait, faut le faire toutes les semaines. Mais c'est vraiment un héros, il est incroyable, John Cena et tout. moi, je l'ai fait une fois et je suis déjà fatigué. Bah oui, bah, écoute, R-Truth, il découvre John Cena, mais voilà, c'est en effet un surhomme. C'est assez rigolo, mais toujours est-il que R-Truth veut être à la hauteur quand même de son mentor, donc il dit bon allez, on recommence, allez, dance break, US Open Challenge encore cette semaine. Alors là, on a le droit à une petite Lacey Evans bombe, hein, qui fait son apparition quotidienne. C'est assez drôle parce que du coup, elle repart et t'as R-Truth qui lui dit on revient ici, sweet gloves ou white gloves ou je sais pas quoi là, ou je sais plus ce qu'il dit là. Bon,
sexy,
c'est assez
gloves,
marrant.
Sexy gloves.
Bon, bref, n'importe quoi. Et puis alors là, vas-y.
T'as le regard de Carmella qui est outré en mode mais
oui.
Quoi ? Mais je suis juste là moi. Jamais ça. C'était génial. Ce passage était très bien. Ça servait à rien pour Lacey Evans, mais au moins ça faisait rigoler.
Non, mais ouais, de toute façon, ça marche vraiment très très bien, Carmella et R-Truth. Et puis alors dans la foulée, Lacey Evans s'en va et là c'est la musique de Samoa Joe, et alors là coupure caméra sur la tête de R-Truth, tu vois les yeux genre oh là là non
c'est
qui se dit genre non mais j'ai pas signé pour ça, c'est quoi ce bordel. Samoa Joe qui s'avance, on dit que d'ailleurs là à ce moment on se dit oh putain, ça va barder pour R-Truth, il aurait mieux fait de la fermer, sauf que ça va aller de mal en pis puisque revoilà Rey Mysterio comme la semaine dernière, Bouyaka qui arrive. Et revoilà Andrade, les trois qui arrivent dans le ring. R-Truth, il est là, attendez, calmez-vous, moi je remets pas ça, c'est quoi ce bordel et tout, c'est l'US Open Challenge de la mort, en mode, tu sais, comme si on avait mis la difficulté maximale dans un jeu vidéo, là, c'est quoi ce foutoir. Et sauf que, alors là, c'est très drôle parce que l'arbitre, il sonne la cloche direct et l'annonceur qui commence tout de suite à annoncer This is a fatal four-way. Ouais, ouais. machin. Donc, bon, bah, t'es là, tu te dis ok, super. Bon, bref, toujours est-il qu'on a un fatal four-way et alors un fatal four-way qui, moi, m'a enchanté. Je l'ai trouvé topissime. Alors, Andrade et Rey Mysterio ont encore une fois fait le show avec leur Canadian Destroyer, leur Hurricane Rana, les contre des 619, en veux-tu, en voilà. Samoa Joe, la powerhouse du match, qui a sorti des Uranage, et dont un absolument dingue, là où quand Artruth se jette sur Samoa Joe dans le coin pour lui porter un splash, et en fait, Samoa Joe l'attrape et le replaque au sol avec son Uranage, là, c'était... Enfin, il y a eu énormément de spots super sympas. Je pourrais pas tous vous les citer. Ce match est vraiment à voir.
Ouais.
Et ça se termine. Coup de théâtre ou pas, hein, mais bon, c'est quand même un petit moment historique puisque c'est Samoa Joe qui l'emporte et c'est son premier titre à la WWE. Il le cherchait depuis tellement de temps. On était là, il faut une ceinture pour Samoa Joe. C'est fait. Le titre US part des hanches de Artruth, malheureusement, mais. C'est quand même il va sur de belles hanches celle de Samoa Joe qui d'ailleurs dans la foulée fera une super promo. De toute façon, je sais pas s'il peut rater une promo lui, je crois qu'il ne sait pas faire. Super promo en coulisses interviewé par Charlie Caruso là qui dit le roi est arrivé, enfin le roi est de retour hein, il met tout SmackDown en alerte, il dit ce titre tout le monde sait à quel point je suis dangereux pour aller chercher un titre. Alors imaginez à quel point je vais l'être encore plus pour le conserver. Plus personne ne touchera à cette ceinture. Et d'ailleurs, il a calé quelques petites répliques hein, de Champ is here notamment et d'autres petites allusions qui ne peuvent m'empêcher de me faire penser que un Samoa Joe contre John Cena, hein, parce que l'ombre de John Cena plane sur cette ceinture depuis quelques semaines, quelques mois, à WrestleMania.
Depuis que Artruth a révélé que son idole d'enfance, c'était John Cena, alors que Artruth est plus vieux que John Cena.
C'est ça. Donc c'est une feude à WrestleMania presque toute trouvée et presque parfaite pour Samoa Joe. Je sais pas ce que t'en penses.
Écoute, ça pourrait être très bien, oui. Faut voir si John ne sera pas rouillé d'avoir trop fait l'acteur.
On espère, mais John, ça revient vite. Hein.
Comme je te le disais en hors antenne, il est en tournage de film jusqu'à la fin du mois de mars. Est-ce qu'il aura le temps de se mettre en forme comme il faut
pour un super héros.
C'est pas sûr.
Il a une work ethic absolument impeccable. Daniel Bryan n'aurait rien à redire là-dessus.
Donc pour revenir sur le match il est dingue. Ça va dans tous les sens. Bah, c'est un Fatal 4-Way, donc de toute manière, ça
part forcément faire ça,
dans tous les sens. Le tombé qui se fait un 619 qui se fait contrer. Puis Samoa Joe qui... Enfin, un 619, tombé de Mysterio, Samoa Joe, Backsenton pour écraser tout le monde, et puis un petit Uranage pour finir, pour assurer le truc. Ça, c'était bien fait. Mysterio, Andrade, toujours excellent ensemble dans le ring. Ouais. Et même Ron a fait un match plus que correct. Hein. Il a vaillamment défendu.
Oui, tout à fait. Non, mais faut pas éclipser. C'est vrai que c'est... T'en es là parce que bon, tu savais que c'était un petit peu un règne comédie. Il allait pas garder la ceinture éternellement, mais il faisait un tellement bon boulot depuis des semaines et dans le ring que t'es presque triste qu'il perde cette ceinture.
Il est presque dans la forme de sa vie, Ron.
Ah, c'est incroyable.
Et en tout cas, il est dans le run de sa vie, ça c'est sûr.
Oui. Ouais. Et d'ailleurs, ouais. tu as mentionné Rey Mysterio Andrade. On a appris un peu plus tard. Qu'ils auront enfin ce match en pay-per-view tant attendu à Fastlane, puisque ça a été annoncé. Par contre, ce sera en pré-show, mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Je pense qu'ils peuvent avoir un bon gros quart d'heure en pré-show qui peut tout casser. Donc, why not? Mais ça y est, ça a été annoncé. Ça.
Ouais.
Écoute, une scène pour le titre US en ébullition, elle aussi, est bien mise en valeur. Et on va continuer. Alors, avant de passer au main event, on va passer du côté des filles. Ça y est, on a eu des news d'Asuka. On a eu des news d'Asuka, rapides, mais efficaces et impactantes, puisque Asuka est intervenue, est apparue après un match anecdotique hein, sur lequel on passera très vite entre Mandy Rose et Naomi. Mandy Rose qui venait faire ses gammes un petit peu avant son match pour la ceinture contre Asuka ce dimanche contre Naomi, sa rivale de toujours, on a envie de dire, enfin bon, sa rivale qui nous aura pas trop intéressé. Bah écoute, elle a squashé grosso merdo Naomi en à peine moins d'une minute, hein, petite distraction de Sonya Deville et Mandy Rose qui en profite pour placer un gros coup de genou et la prise un peu à la Michelle McCool, je sais pas si ça a un nom, mais qui est assez sympa.
C'était l'ancien finisher de Michelle McCool, puisque son dernier finisher à Michelle, pardon.
Ah, c'était comme le Styles Clash là.
Un genre de Styles Clash. Et là, c'est ce qu'on appelle un Butterfly from Slam.
Ouais, voilà, ce coup de sympa visuellement, c'est efficace. Et ça fait le tomber sur Naomi, 1, 2, 3. Et donc, pendant que Mandy et Sonya remontent la rampe et font la fête et que Corey Graves orgasme aux commentaires, Asuka arrive derrière et leur botte le cul aux deux et les laisse pour mortes en haut du Titantron. Donc la championne reprend un petit peu du poil de la bête, on a envie de dire c'est pas trop tôt, parce que c'est vrai que elle avait un peu disparu de la circulation et c'était un petit peu le Mandy et Sonya Show dans une moindre mesure là. Donc elle se réaffirme un petit peu avant ce match de dimanche. Et puis voilà. Tu as une petite chose à dire là-dessus?
Non, c'était un match de merde. Il servait juste à mettre Mandy en avant.
C'est ça.
Mandy qui est d'ailleurs a failli blesser Asuka lors d'un house show puisque elle avait botché un peu son finisher et Asuka était retombée pas correctement et du coup l'arbitre avait dû appeler les soigneurs.
Ouais. Apparemment Asuka va bien, donc ça va, tout va bien.
Apparemment Asuka va bien.
Nous arrivons au main event qui est un segment micro. Charlotte, un peu plus tôt dans l'émission, avait fait une promo pleine de morgue et de condescendance backstage en disant que elle invitait sa meilleure amie, sa best friend Becky à venir discuter amicalement dans le ring pour savoir un petit peu comment elle allait, puisqu'elles vont se rencontrer à Fastlane dimanche pour un match qui vaut de l'or, hein, pour savoir si Becky Lynch va ou non intégrer le match pour le titre féminin à WrestleMania. Elle l'invite dans le ring, est-ce qu'elle répondra à son appel, on ne sait pas, mais c'était un petit peu le fil rouge de l'émission. On a rapidement appris que Becky Lynch était dans le building et que donc, bien évidemment, The Man n'allait pas le carapater comme ça et refuser le challenge. Donc Charlotte est dans le ring, elle montre évidemment quelques images de ce qui s'est passé avec l'attaque de Becky Lynch à Raw et puis le beatdown après de Ronda Rousey qui a un peu massacré Becky Lynch la veille à Monday Night Raw. Charlotte qui appelle Becky. Becky qui arrive en boitant toujours aussi bas avec sa béquille. Elle arrive dans le ring, elle prend le micro et puis elle a toujours avec ce sourire narquois de défiance. Elle dit Becky Lynch, elle dit non mais de toute façon vous pouvez décidément pas vous passer de moi, Charlotte, je suis dans ta tête, je t'ai battu sur une bonne jambe au Royal Rumble, rien ne m'empêchera de le refaire ce dimanche et tu le sais très bien. Et puis tu vois bien en plus Ronda Rousey la veille m'a donné son absolute best, hein, ses meilleurs coups. Et pourtant je suis toujours là, vous me faites bien marrer toutes les deux, vous arrivez même pas à battre une estropie, hein, grosso modo c'est un petit peu ce qu'elle essaye de leur dire. Peut-être que je suis blessé, mais il y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui est blessé parce qu'il a plus rien à perdre. Après toutes ces petites provocations de la rebelle Becky Lynch, Charlotte finit par attaquer et essaye forcément de cibler le genou. Elle dit vas-y Becky, alors regarde, t'es ridicule, t'es pathétique, t'as trop mal, t'as aucune chance de me battre. Et Becky Lynch qui se rebiffe, lui met des coups de Becky et arrive à placer le disarmer et donc ne lâche pas la prise, hein, c'est les arbitres qui sont obligés de venir séparer les deux femmes. Donc bah voilà, écoute, on a un angle, on va dire pré-pay-per-view classique hein, des deux protagonistes qui se foutent sur la tronche. On est obligé de les séparer. La tension est à son comble. On n'a plus qu'une envie, c'est d'arriver dimanche. Moi, j'ai trouvé que ce segment était plutôt efficace. Voilà, classique, mais très efficace. Tu as pensé?
Ce que j'en ai pensé, c'est que voilà, c'est le genre de segment qu'il faut pour nous.
Ah oui.
Pour nous motiver pour
de la baston.
Pour un triple threat, et parce que je vous renvoie à l'article de Giscal sur les cahiers du catch, sur pourquoi cette triple threat est une bonne idée. Je ne remets pas en cause le fait que ce soit une bonne idée, je pense juste moi que c'est trop tôt, mais bon, ça c'est mon avis personnel.
Oui.
Et du coup, je trouvais que voilà, l'ajout de Charlotte à la rivalité était un peu forcé, puis après le retrait de Becky était un peu forcé et mal amené. Et là, voilà, là, on arrive à ce qui va me motiver pour avoir les trois dans le ring en même temps. Des beatdowns, des passages à tabac, du fracassage de béquilles, du fracassage de tête et tout ce que tu veux. Ça, voilà, tu veux me motiver, tu me mets ça. Voilà, je demande pas plus, je suis un mec simple, moi.
Mais je suis bien d'accord avec toi, finalement. Moi, je trouve ça bien plus efficace que ces histoires de Becky est arrêté, j'abandonne ma ceinture, puis je l'abandonne plus, puis Becky est libéré, ouais, puis
ça,
machin.
J'ai rien compris à cet angle-là. Un champion a le droit de reprendre sa ceinture après l'avoir déclaré vainqueur.
Bah écoute, c'est une jurisprudence. Jurisprudence Ronda aussi.
Du coup, est-ce qu'elle est vraiment vacante ou est-ce que.
Ah bah non, elle l'a repris.
Vu qu'elle l'a repris, c'était pas vacant en fait. Donc. C'est n'importe quoi, voilà.
C'était n'importe quoi, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, au final, ce qui est efficace et ce qui marche, bah, c'est la bonne vieille baston. Hein, quand on voit Ronda Rousey atomiser Becky Lynch la veille, et puis bah, là, les deux Becky Lynch, là, cette fois, qui détruit le bras de Charlotte. Enfin bref, voilà, elles se détestent, elles veulent toutes s'entretuer. C'est ça qui nous motive, c'est ça qu'on a envie de voir. Donc quelque chose de bien plus simple, mais bien plus efficace aussi à ce moment-là.
C'est plus organique.
Voilà.
Alambiqué, c'est simple, voilà. Exactement.
On comprend tout de suite, quoi. Ouais. Voilà. On comprend tout de suite ce qui se passe. Il y a la babyface blessée, la championne arrogante, méchante, les deux qui se foutent sur la tronche. Bon, bah rendez-vous dimanche. Allez, ça va se régler dans le ring.
Voilà.
C'est tout ce dont on a envie. Et puis, on conclut ainsi ce SmackDown. Qui, ma foi, aura été sur tous les fronts pour ce Fastlane, de dimanche. Alors, c'est parti pour ton top, ton flop et ta note.
Alors, mon flop, je dirais les passages de Lacey Evans, hein, pour changer. Je pense que ça va être mon flop jusqu'à ce qu'ils arrêtent cette idée.
C'est le running flop. Ouais.
Ah, ça va être ça, ouais. Bon, sinon, c'était Mandy Rose, parce que je trouvais que ça servait à rien, mais voilà. Mon top, je vais quand même le donner au. Alors, je suis un fan absolu de Becky Lynch, hein, vous le savez tous maintenant, depuis le temps. Mais je vais quand même donner mon top au Fatal 4-Way et à tout ce passage-là, parce que en plein cœur de show, ça a duré 30 bonnes minutes et c'était super bien pendant 30 bonnes minutes. Tout était bien, sauf le passage avec Lacey Evans. Mais ce qu'ils en ont fait après avec R-Truth qui demande de revenir, je veux bien un open challenge contre toi, ça me dérange pas, ça c'était sympa, mais voilà, c'était... Ce qui est marrant, c'est que mon top et mon flop sont dans le même segment, c'est assez bizarre et paradoxal, mais c'est pas grave. Et ma note, mis à part le match de Mandy Rose qui servait à rien, il y a eu du bon catch cette semaine... Il y a eu des bons segments à part Lacey Evans comme prévu, comme je le disais. Donc je vais mettre un bon 4. Moi j'ai pris un bon moment perdant mon SmackDown tranquillement malgré mes petits soucis techniques.
Eh bien, je te rejoins totalement sur la note puisque c'est également un 4 de mon côté. C'est un modèle de Go Home Show très bien exécuté, comme je les aime, où chaque affiche de Fastlane a été traitée. Les femmes, enfin les deux matchs féminins, les équipes, le titre suprême, Le Andrade Rey qui a été booké. Enfin bref, c'est du go-home show bien calibré, bien écrit, qui nous envoie vers Fastlane de la meilleure des manières, avec du bon catch. Moi, je vais donner mon top. Bah écoute, c'est un top qui fait un petit peu office d'au revoir aussi pour Artruss, qui a été un formidable champion des États-Unis et qui a été très bon encore cette semaine, que ce soit dans sa promo avant le match ou pendant le match. Il est absolument hallucinant à son âge et super drôle. Et enfin bref, il est top ce gars. Donc voilà, ce sera mon top cette semaine. Et mon flop, bah, j'en ai un petit peu parlé en intro, peut-être un peu surprenant pour certains, mais je vais le donner à Kevin Owens, mon flop, parce que bah, ça me plaît pas sa promo d'intro, ça me plaît pas, et ça me ce Kevin Owens face ne m'enchante absolument pas pour le moment. J'ai vraiment l'impression d'avoir une sorte de coquille vide face générique qui on a enlevé tout le sel de son personnage là pour le moment, en tout cas me concernant, avec des répliques génériques là, voilà, je vais aider le public à faire fermer ta bouche, et puis ouais, j'ai pas d'amis peut-être, mais n'empêche que je t'ai battu la semaine dernière, alors je vais le refaire. Enfin bref, on avait l'impression d'entendre des promos pré-générés dans un jeu vidéo ou un truc. Enfin c'était un peu tristounet là, ce retour de Kevin Owens pour l'instant. Donc ce sera mon flop cette semaine, et puis maintenant j'ai déjà donné ces 4. Donc bah voilà, écoute, on a fait le tour. Comme toujours, chers auditeurs, bah retrouvez-nous sur tout ce que l'internet compte de plateformes. Hein. Alors sur YouTube, évidemment, sur notre chaîne Catch Up CDC, pour nous écouter en audio format podcast aussi quand vous allez faire une des courses ou chez vous. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur PodCloud et sur Spotify. C'est ça. Et puis bah, après, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, @catchupcdc sur Instagram et sur Twitter, catchupcdc également sur Facebook. Venez discuter avec nous sur notre canal Discord. Le lien sera dans la description de la vidéo YouTube. Suivez nos petites reviews et nos articles de temps en temps. En effet, Bad Karma l'a mentionné sur les cahiers du catch hébergés par VoxCatch. Vous trouverez de quoi abreuver votre soif de lecture sur l'actualité de la WWE. Et puis bah écoute, merci à toi Bad Karma pour cet épisode.
Mais merci de l'avoir présenté.
Et je t'en prie. Puis bah écoute, on n'a plus qu'à souhaiter une bonne fin de semaine et puis un excellent pay-per-view à tous, un excellent Fastlane.
Ouais, exactement. Bon Fastlane tout le monde.
Allez, salut tout le monde, ciao.
Ciao.